Vous êtes sur RTL.
Et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 29 janvier, l'itinéraire d'une vengeance. Les trois meurtres commis du côté de Valence et en Alsace sont bien de la main du même homme. Il avait travaillé dans les entreprises gérées par ses victimes. Nous irons aussi à Nancy, où il réside. À quoi ressemblera ce nouveau confinement? Ni tout à fait au premier, ni tout à fait au deuxième. Une version hybride, paraît-il. Mais déjà, les pédiatres supplient l'Élysée de laisser les enfants aller à l'école. Les dégâts sont considérables, nous dira le professeur Chaste, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades à Paris. Dans RTL Midi aussi, 8,3% de récession cette année, c'est historique, mais moins pire, si j'ose dire, que prévu. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera goûter des biscuits signés Terry Marx en Indre-et-Loire. La météo très agitée de Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Christelle.
16 départements sont en vigilance.
Exactement, donc en effet, avec les cumuls importants qui sont tombés ces dernières heures, eh bien, les nappes phréatiques sont saturées et cela implique donc un risque de crue et d'inondations donc pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, du Bas et du Haut-Rhin, de la Meurthe-et-Moselle, des Vosges, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de l'Ain, de l'Isère et des Deux-Savoies. Et puis, avec les températures très douces, eh bien, un risque important d'avalanche donc plane sur les Hautes-Alpes, mais là encore sur l'Isère et les Deux-Savoies. Et enfin, pour couronner le tout, eh bien, la Corse sera exposée à des rafales de plus de 130 km/h cet après-midi. C'est pour ça qu'elle est placée en vigilance orange vent.
La question du jour sur RTL.fr, est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? Eh bien, vous dites oui à 40%, il y a 51% de non. C'est assez partagé, on attend vos appels, vos arguments au 3210. Bonjour Pascal.
Bonjour Christelle, et c'est Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, qui a posé cette interrogation. Il a évoqué hier une question un peu sociétale, quasi éthique, de politique générationnelle. Peut-on réellement choisir entre sauver la santé physique de nos aînés et préserver la santé mental des plus jeunes? Autre question au 3210, craignez-vous la fermeture des écoles avec la menace d'un confinement très serré ou le terme qui apparaît aujourd'hui comme hybride? Redoutez-vous l'enseignement à distance? Et puis le gouvernement prévoit qu'en février, seulement 1 million de personnes recevront une première injection de vaccin anti-Covid. Les livraisons de doses, vous le savez, sont moins importantes que prévu. Est-ce que votre rendez-vous pour vous faire vacciner a été annulé? Là encore, appelez-nous.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
C'est bien le même homme qui a semé la mort du côté de Valence et en Alsace. Le lien a été établi par les enquêteurs sur les meurtres d'une conseillère Pôle emploi, de deux DRH et la tentative d'assassinat d'un autre directeur des ressources humaines. Il a été formellement reconnu et il se serait vengé de ses trois anciens supérieurs hiérarchiques, Alice Moreno.
Absolument, le mobile est clair. Dans tous les cas, c'est la vengeance. Les deux DRH pris pour cible en Alsace ont monté ensemble un plan de restructuration dans une entreprise où travaillait le tueur présumé. Il avait alors été licencié. Quant à la DRH de Valence, là encore, le tireur la connaissait. Il était salarié de son entreprise. Quand elle était déjà en poste, il aurait là aussi été remercié. Le mystère demeure sur la conseillère Pôle emploi. Il n'avait jamais eu affaire à elle, mais il a déjà été inscrit dans l'agence où il a commis son crime. Et c'est un seul homme, donc, derrière cette série d'homicides. Cela ne fait plus de doute. L'unique survivant parmi ses victimes, le chef d'entreprise qui a échappé de peu à la mort près de Colmar, a reconnu sur photo son agresseur. C'est le même homme que celui arrêté à Valence. Et puis, preuve irréfutable, l'ADN du suspect a aussi été retrouvé sur les différentes scènes de crime. Cet homme de 45 ans est entendu par les enquêteurs depuis hier matin, mais il reste mutique depuis le début de sa garde à vue.
Alice Moreno, et le tueur présumé est originaire de Nancy. Samuel Goldschmidt, vous êtes devant son immeuble. Que sait-on de lui ?
Alors, il est né en 1975, il a passé toute sa jeunesse ici, à Nancy, ou tout près, au collège. Ses années de lycée se passent dans un prestigieux établissement à vocation plutôt scientifique et technique, et il a enchaîné avec des études d'ingénieur à Metz, terminé il y a 22 ans. Il habite seul au troisième étage de ce HLM, où il a repris l'appartement de sa mère, selon des voisines historiques de ce groupe de petits immeubles.
Bah, depuis tout petit qu'on les connaît. Et sa mère travaillait, bah, elle les dressait, mon vieux. Attention, moi, c'est le chemin droit parce qu'elle les corrigeait. Hein. Oh, bah, il était toujours sur les quatre chemins. On ne sait pas où qu'il allait.
Il se promenait tout le temps. Il revenait, moi, juste. Je l'ai croisé il y a, je vous dis, 3-4 jours sur mon panier. Ah, c'est la première fois qu'il a souri. Parce que c'était un gars qui ne souriait pas. Hein. Toujours bien habillé. Hein. Ça fait combien d'années qu'il est là?
Ça fait 4-5 ans.
4-5 ans, hein. Ah, ça fait 4-5 ans qu'il est là.
La dernière fois qu'elles l'ont vu, en début de semaine, il chargeait des sacs de voyage dans sa voiture rouge. Pour quel parcours exact? C'est ce que l'enquête va s'attacher à détailler.
Samuel Goldschmidt en direct de Nancy pour RTL. À quoi ressemblera le confinement qu'on annonce serré ou hybride? Une chose est sûre, certainement pas à ce qui se passe en ce moment à Hong Kong. Pour limiter la propagation du virus et éviter la constitution de clusters, les autorités pratiquent le confinement éclair. Particulièrement spectaculaire, Philippe Dova.
Oui, 13 cas signalés dans un bâtiment et ce sont tous les habitants d'une résidence vétuste du quartier de North Point qui ont été littéralement pris en embuscade hier soir pendant 12 heures. Rue bloquée par la police, test obligatoire dans des stands de kermesse. Et pour Monsieur Chang, la nuit a été très très longue.
On a été piégés à l'intérieur. On ne pouvait pas s'échapper, on a fait les tests et après on n'avait rien à faire. Bien sûr que nous devons coopérer. C'est la façon la plus rapide de tester toute la zone.
Mais même avec des résultats négatifs, impossible pour les habitants comme Ginny de s'éloigner.
Après le test, je dois rester à la maison et arrêter de travailler pendant 7 jours parce que mon entreprise sait que j'habite dans une zone à risque, donc je dois rester ici.
Des contraintes discutables pour Lee Yun-shun, conseiller du district et porte-parole des résidents.
Il n'y a que 475 personnes qui ont été testées et aucun cas n'a été trouvé. Il y a environ 1000 personnes qui habitent ici. Les personnes testées représentent un faible pourcentage. Beaucoup doutent de cette mesure.
Et depuis la levée du confinement, la police fait du porte-à-porte pour retrouver ceux qui auraient échappé à la souricière et les obligé à faire le test avant une très probable opération éclair dans un autre quartier de la ville.
Un reportage Philippe Dova à Hong Kong pour RTL. Alors, vous l'avez entendu, c'est une méthode assez radicale, mais c'est une méthode que propose ici aussi en France le député Agir du Haut-Rhin, Olivier Becht.
La proposition des députés Agir Ensemble, c'est de faire un confinement dans les régions où le virus circule le plus, de faire une espèce de bulle, et une fois qu'on a pendant 10 jours testé toute la population en mobilisant tous les moyens de test du pays, eh bien on passe à la région suivante. Et ainsi, c'est une stratégie région par région, commune par commune, rue par rue, et il faut évidemment une obligation pour les personnes positives et les cas contacts de s'isoler pendant 10 jours, là aussi de manière stricte. Mais c'est la condition pour pouvoir reprendre une vie normale. Alors, si ça n'existait pas ailleurs, on pourrait me dire « Mais Monsieur Belge, vous êtes un doux rêveur ». Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie des pays d'Asie et d'Océanie l'ont fait. Ils ont retrouvé une vie quasi normale, alors que nous, en Europe, nous sommes en train de nous engluer dans cette crise qui nous coûte excessivement cher et qui va peser sur des générations derrière pour rembourser les montagnes de dettes que nous sommes en train de faire.
Olivier Belge, interrogé par Jacques Serret, l'hypothèse la plus probable, c'est donc plutôt un reconfinement hybride qui ne ressemblerait ni à celui du mois de mars ni à celui du mois de novembre, une espèce d'entre-deux que le chef de l'État pourrait annoncer avant mardi, puisque si reconfinement il y a, un débat se tiendra à l'Assemblée nationale mardi, donc avec un vote consultatif et une mise en place des restrictions dans la foulée. Est-on en train de sacrifier nos enfants? Que risque-t-il sur un troisième confinement? Je reçois dans un instant la chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Faut-il reconfiner les enfants? Cette question hante les pédiatres qui plaident pour maintenir à tout prix les écoles ouvertes dans les prochaines semaines. Alors, on a beaucoup évoqué ces derniers jours la santé mentale des 18-24 ans, mais moins celle des enfants. Et pourtant, l'inquiétude est grande. Bonjour Pauline Chast.
Bonjour madame.
Vous êtes chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker à Paris et vous voyez arriver de plus en plus d'enfants suicidaires. Donnez-nous des chiffres.
Alors en effet, on est extrêmement alerté puisque début novembre, donc en parallèle du deuxième confinement, on a observé un doublement des passages aux urgences pour des tentatives de suicide. Sachant qu'à l'hôpital Necker, on reçoit des enfants de moins de 15 ans et très souvent des enfants même très jeunes, 11-12 ans. Et c'est un constat qu'on a partagé avec d'autres collègues de pédopsychiatrie, notamment à la Pitié-Salpêtrière et à l'hôpital Robert-Debré.
Et ça n'est jamais arrivé avant dans ces proportions-là?
Alors on a toujours reçu des enfants plus ou moins selon les saisons. Et on reçoit toujours plus d'enfants l'hiver que l'été. Mais quand on compare aux différentes années, en septembre-octobre, on était proche des hauts, des années les plus hautes. Mais depuis le mois de novembre, on est très au-dessus. Et là, on a vraiment un doublement des tentatives de suicide.
C'était des enfants qui étaient déjà en souffrance, j'imagine. Qu'est-ce qu'un confinement change pour eux? Vous faites le lien de manière claire avec les confinements qu'on a déjà subis?
Alors, je dirais que pendant le premier confinement, les situations qu'on a reçues étaient clairement évoquées par les familles comme en lien avec le confinement, avec des situations d'explosion familiale ou de maltraitance. Depuis début novembre, c'est un peu différent. Les enfants ou les familles n'évoquent pas particulièrement le confinement. Ce qui nous fait être très inquiets, c'est vraiment la temporalité. C'est-à-dire que cette vague, hein, comme on dit aujourd'hui, a démarré début novembre et ne ralentit pas et est très 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 significativement différente de d'habitude. On n'a pas d'autre explication que la succession des confinements, mais aussi l'aspect anxiogène de la situation.
Mmh. En quoi un confinement atteint-il le développement des enfants ?
Alors, il atteint différemment les jeunes enfants et les adolescents. Pour les jeunes enfants, on est plus inquiet d'un manque d'expérience, on est plus inquiet d'un manque de scolarisation et de retard dans les apprentissages, en particulier pour les enfants qui ont des difficultés. Les enfants qui ont des troubles des apprentissages sont les plus pénalisés quand les écoles sont fermées.
Parce qu'ils sont perdus, finalement, à la maison ?
Parce qu'ils sont perdus, parce que leurs parents n'ont pas nécessairement les clés qu'ont les enseignants pour leur faire comprendre les mécanismes d'apprentissage. Et en particulier, quand les parents travaillent et doivent faire les devoirs, par exemple, si un enfant n'est pas extrêmement rapide pour comprendre, il ne va pas avoir le temps de comprendre avec des parents qui sont en train de faire autre chose. Mm-hmm. Pour les adolescents, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont besoin, pour s'autonomiser, d'une vie sociale, de rencontrer des gens à l'extérieur de la famille. Et souvent, c'est plutôt le huis clos familial qui est difficile à tolérer.
Ils vous le disent, ça ? Ils le disent ouvertement ? Les enfants que vous recevez aujourd'hui, il y en a qui ont tenté de se défenestrer, il y en a qui ont tenté de se pendre ?
Hein ? Alors effectivement, ça c'est un autre point d'alerte qu'on a noté à Necker, c'est qu'une des augmentations importantes est liée aux tentatives de suicide violentes, hein, donc effectivement les défenestrations par exemple. Les enfants actuellement ne font pas particulièrement le lien eux-mêmes avec le confinement. En revanche, on observe que c'est plus fréquent depuis début novembre. Et souvent, il y a des problématiques familiales très intenses, avec des relations qui se sont beaucoup tendues dans la famille, et donc une majoration des troubles.
Donc des relations tendues dans la famille, plus de relations sociales avec les amis. En fait, les enfants, ils se construisent aussi beaucoup sur cette sociabilisation, on va dire.
Exactement. Et en particulier à l'adolescence, à tous les âges. Mais c'est vrai que les jeunes enfants ont beaucoup besoin de leurs parents. Et il y a un certain nombre de jeunes enfants qui ont pu même profiter du temps du premier confinement avec leurs parents. Pour les adolescents, ils ont absolument besoin d'un extérieur.
En fait, c'est la santé mentale des adultes de demain qui est en cause aujourd'hui. C'est ça qui vous inquiète ? C'est-à-dire qu'on est en train de construire des enfants fragilisés ?
Alors, je dirais qu'on est inquiet même à court terme, hein, c'est-à-dire que les hôpitaux sont saturés. On ne sait plus où hospitaliser les enfants. Depuis une semaine, on passe des heures aux urgences à pouvoir transférer les enfants dans d'autres hôpitaux parce qu'on ne sait pas où les hospitaliser. Parfois, on propose une consultation le lendemain parce qu'on n'a pas pu hospitaliser un enfant qu'on aurait aimé hospitaliser. Donc ça, c'est une inquiétude à court terme. Il y a une inquiétude, effectivement, à moyen et long terme, qui est qu'un certain nombre d'enfants présentent des troubles déjà importants et que on peut aller vers une aggravation des troubles pour ces enfants-là.
Merci beaucoup. Merci d'être venu témoigner et de lancer ce cri d'alarme. Merci Pauline Chaste, chef du service de pédopsychiatrie à l'hôpital Necker à Paris. Et puis n'hésitez pas à revenir et on refera un point dans RTL Midi. Merci beaucoup. Beaucoup de tensions sur les vaccins. Des rendez-vous déjà pris sont déjà reportés au mois de mars pour les premières injections dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, en Bourgogne. Mais pour le ministre de la Santé, Olivier Véran, tout ça va s'améliorer au fil des semaines.
Alors il n'y a pas d'annulation. Il y a pu avoir ce qu'on appelle des primes injections qui peuvent être reportées de quelques jours pour plusieurs raisons. Effectivement, il y a eu des diminutions de l'arrivage de vaccins par rapport à ce qui nous avait été promis, par rapport à ce que nous avions signé en termes de contrat. Et puis, il y a eu la multiplication des centres de vaccination qui fait qu'il y a des endroits où il y a eu un peu plus de rendez-vous programmés qu'il n'y avait de doses qui étaient prévues. Tout cela va s'arrêter, ça rentre dans l'ordre. Tous les centres disposent du calendrier de vaccination pour les 4 semaines à venir et toutes les semaines, on rajoute une semaine supplémentaire pour donner de la visibilité.
Olivier Véran au micro d'Agathe Landais. L'Agence européenne des médicaments se veut rassurante ce matin. Le vaccin Pfizer n'a pas de lien avec les décès post-vaccinaux signalés dans les pays scandinaves. Elle devrait en principe autoriser aujourd'hui l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca, même si l'Allemagne le déconseille pour les plus de 65 ans, faute d'études suffisantes. Sans surprise, l'économie française a connu une récession historique en 2020 avec des chutes
chute d'activité inédite dans certains secteurs. Le produit intérieur brut a plongé de 8,3% l'an dernier, après une croissance de 1,5% en 2019. Comme ça paraît loin. Et finalement, c'est pas aussi grave qu'annoncé, Christophe Ponzio.
Oui, pas aussi grave que les prévisions de l'INSEE et de la Banque de France, qui tablaient sur une chute de 9% de notre richesse nationale. Et encore moins grave que l'estimation du gouvernement, qui misait prudemment, disait-il, sur une baisse de carrément 11% du PIB l'an dernier. Mais bon, ça fait quand même une chute de 200 milliards d'euros pour notre croissance. Alors pourquoi ce plongeon mesuré ? D'abord, grâce au fort rebond de la croissance l'été dernier, au moment du déconfinement. Et puis ensuite, grâce à la résistance de l'économie en fin d'année. Résistance bien meilleure lors du deuxième confinement qu'au premier, moins 1,3% au dernier trimestre de l'an dernier. La consommation des Français s'est ainsi effondrée en novembre, moins 18%, mais elle est repartie fortement en décembre. Ça, c'est la surprise, avec la réouverture des commerces, plus 23% de dépenses avant les fêtes, ce qui permet même au dernier mois de l'année 2020 de faire mieux qu'en 2019. Reste que ces chiffres cachent des disparités selon les secteurs, effondrement de l'hôtellerie-restauration, des spectacles ou de l'aérien, quand la construction a pour le coup résisté. Et cette croissance en accordéon risque de durer, évidemment, pour les premiers mois de cette année. Avec le durcissement des mesures sanitaires attendues, l'objectif du gouvernement des 6% de croissance en 2021 semble de plus en plus s'éloigner.
Oui, ça s'éloigne. Merci Christophe. Un sondage donne Marine Le Pen au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. 48% contre 52% pour le chef de l'État, si l'élection avait lieu demain, bien sûr. Ce sondage Harris Interactive était censé être confidentiel, mais Marine Le Pen s'en félicite ouvertement.
Il dit à tous ceux qui n'ont plus envie de la politique d'Emmanuel Macron qu'il est temps de se rassembler autour de ma candidature, et qu'on les attend d'ailleurs, et qu'on les accueillera à bras ouverts, et qu'il faut qu'ils viennent travailler avec nous. Et c'est à partir de maintenant qu'il faut le faire. Et ça dit que toute la théorie qui a été développée pendant des mois et des mois, elle ne peut pas gagner, 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 relevait de la méthode Coué. Ben si, elle peut gagner. L'hypothèse de ma victoire est une hypothèse crédible et même plausible.
Marine Le Pen au micro RTL de Marie Mollet. Une pause et dans un instant, on part manger des biscuits à Saint-Cyr-sur-Loire. Et bon appétit si vous êtes à table. On vous offre le dessert.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière. RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et aujourd'hui, nous partons à Saint-Cyr-sur-Loire, en Indre-et-Loire, dans une biscuiterie qui permet d'être gourmand sans surcharge en sucre. Et la recette a séduit le grand chef Thierry Marx, Christian Panvert.
Les mélanges sont effectués dans un pétrin. Une machine appelée la dresseuse façonne les biscuits au chocolat. Un chocolat fabriqué sans sucre ajouté, mais aussi sans édulcorant. Gaëlle Hermange, cofondatrice de Néo Gourmet.
On est vraiment sur des chocolats qui sont gourmands. C'est pas des chocolats de régime. On arrive même à avoir des 85% qui sont pas amers.
Et cela est dû à l'utilisation de fruits.
La nature fait très bien les choses et les fruits sont déjà sucrés en fait. Donc il suffit juste de les utiliser tels quels, déshydratés ou secs, sans les transformer.
Le projet a séduit le grand chef Thierry Marx, qui s'est associé à la start-up. Il contribue même aux recettes.
Aujourd'hui, on avance des produits qui sont bons, bien sourcés en termes d'ingrédients et qui permettent aux personnes qui, des fois, veulent s'éloigner un petit peu de ces sucres saccharoses de pouvoir le faire en gardant le plaisir de la dégustation.
Son nom a boosté les ventes.
Quand vous parlez de sans sucre, tout de suite, on se dit « Ah ben non, mais moi, je suis pas au régime ». Alors que là, le fait que le Thierry Marx vous dise « Il y a le plaisir, il y a la gourmandise, il y a la santé », et bien tout de suite, effectivement, ça nous ouvre des portes.
Néo Gourmet, qui distribue principalement dans les épiceries fines et dans quelques grandes surfaces, embauche 8 personnes et devrait en recruter 3 autres cette année.
Voilà, et c'était le coup de cœur de Christian Panvert à Saint-Cyr-sur-Loire. Les handballeurs français sont enfin sortis du brouillard et l'équipe de France peut même rêver d'une médaille au championnat du monde. Un an après leur piètre élimination au premier tour de l'Euro, les Bleus disputent cette fois une demi-finale face à la Suède. Ce sera à partir de 17h30 et pourtant ils n'ont même pas de surnom, Isabelle Langer.
Ah oui, ne les appelez plus jamais les experts. Les joueurs présents en Égypte, en tout cas, ont définitivement tourné la page à l'image de Valentin Porte.
Non, nous, on est passé à autre chose. Les experts, je ne vais pas dire n'existent plus, ça ferait un titre fort, mais les experts, c'était avant. Nous, on est en train de reconstruire quelque chose sans surnom et avec humilité.
C'est vrai qu'il ne reste aujourd'hui seulement que 2 experts dans ce groupe, Mickaël Guigou et Luc Abalo. Et pour le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gilles, il est effectivement temps de passer à autre chose.
Ce groupe, aujourd'hui,
aujourd'hui, il a aussi besoin de trouver son chemin vers la performance, de pouvoir écrire ses premières belles pages dans des compétitions. Et ça passe forcément par des résultats positifs dans les prochains jours.
Mais alors, comment doit-on les appeler, ces bleus version 2021? Question posée à Dick Amem.
Comme vous le sentez, en fait, on n'est pas vraiment focus là-dessus. Tout ce qu'on veut, nous, c'est essayer de remettre l'équipe de France là où elle doit être et continuer à grandir en tant qu'équipe.
Effectivement, tel un phénix, après deux années difficiles, l'équipe de France est en train de renaître de ses cendres. Reste à trouver quand même un surnom. Et pourquoi pas les conquérants?
Et pourquoi pas? Bonne idée, Isabelle. La chaîne Téléfoot va finalement continuer à diffuser les matchs de la Ligue 1, au moins jusqu'au 3 février. L'accord avec la Ligue prévoyait pourtant un arrêt au 31 janvier, mais la Ligue de football professionnel attend encore des offres pour le rachat des matchs de Mediapro. Il est allé jusqu'au bout de lui-même pour rentrer au port. Le héros du Vendée Globe, Jean Le Cam, qui avait sauvé Kevin Escoffier, se classe finalement quatrième. « J'ai connu l'insoutenable », dit-il, car après avoir débarqué son rescapé, ça on ne le savait pas, mais il s'est aperçu que son bateau était fendillé à l'avant. Il s'est même cassé une côte il y a deux semaines. Mais avant d'arriver au port, le roi Le Cam a dansé sur son bateau. Bon, pour l'instant, à 61 ans, Jean Le Cam n'est pas sûr d'avoir envie de repartir sur un prochain Vendée Globe.
En tout cas, incroyable, Jean Le Cam.
Il est extraordinaire.
J'ai lu un excellent papier ce matin dans le journal L'Équipe, vraiment sur lui. Et c'est un papier que je recommande à nos lecteurs
moi aussi.
Et à nos auditeurs. De quoi va-t-on parler? De la jeunesse. Alors, le débat arrive. Hein. C'est la première fois qu'il arrive, quand même. On l'a un peu évacué. Et on était avec un auditeur, d'ailleurs, hier. C'était très intéressant. Un auditeur de 85 ans qui disait, évidemment, qu'il faut penser aux jeunes. Moi, je suis prête à partir avant les jeunes. Bon, il s'appelait Gilles. Mais c'est vrai que ce débat, c'est Jean-François Delfrécy, le président du Conseil scientifique, qui l'a évoqué. C'est une question sociétale, éthique. Est-ce qu'on est en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? On pourra évidemment parler des vaccins qui n'arrivent pas en temps et en heure. Et puis, on pourra effectivement parler de ce confinement. Mais c'est un jour sans fin, quoi. Je le dis tous les jours. On va repartir encore pendant plusieurs semaines avec à parler confinement. Les gens vont être chez eux et on a l'impression de radoter comme cela.
Oui, en même temps, c'est jamais tout à fait la même chose.
Vous trouvez que ce n'est jamais tout
Non, le deuxième confinement ne ressemblait pas au premier.
Bah, c'est évidemment parce qu'il n'existait pas.
Bah, donc, si, quand même.
C'était vraiment un confinement hyper light, quand même, ou très light.
Bah, ce sera entre les deux, paraît-il.
Hybride.
Hybride, c'est le mot du jour.
Fichtre.
La météo, Claire Delorme, des risques d'inondations, de crues, d'avalanches, et comme ça suffisait pas, un coup de vent.
En effet, la météo sera vraiment capricieuse, surtout à l'est du pays, avec les pluies de la matinée qui vont se bloquer donc dans l'après-midi vers les reliefs de l'est du pays, mais également vers les Pyrénées avec encore des pluies soutenues. La limite pluie-neige qui s'abaisse à 1400 mètres et encore un risque d'avalanche très important, je tiens à bien le souligner. Mm-hmm. Partout ailleurs, eh bien, c'est une traîne qui se met en place avec une alternance donc de passages nuageux, des averses qui seront beaucoup plus nombreuses en direction du nord-est, mais aussi quelques plages d'éclaircies de la Normandie vers les régions centrales. Et même si les conditions seront bien ensoleillées en Méditerranée, c'est pas pour autant qu'elles seront agréables, puisque la tramontane va souffler fort jusqu'à 80 km/h, mais surtout un coup de vent en Corse avec des rafales à plus de 130 km/h sur les caps exposés. Hein, c'est pas rien. Côté température, eh bien, on est encore sous la douceur, entre 10 et 13 degrés pour l'après-midi, donc concernant la moitié nord, 16 degrés en moyenne pour la moitié sud, et tout de même jusqu'à 21 degrés en Méditerranée.
C'est incroyable.
Pour
et ce week-end s'annonce Mossad, alors?
Oui, eh bien Mossad, donc il faudra bien profiter de cette petite traîne qu'on peut qualifier d'accalmie, puisque dans la nuit de vendredi à samedi, une nouvelle perturbation va arriver. Elle va concerner donc l'ensemble des régions avec encore beaucoup d'humidité et du vent, donc profitez bien de cet après-midi. C'est le conseil que je peux vous donner.
C'est un week-end sous la couette, alors.
Ouais, exactement.
Merci, Claire. Dans un instant, vous allez dialoguer avec Pascal Praud sur RTL, juste après le rappel des titres.
RTL Midi.
Il est quasiment 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Est-on en train de sacrifier la jeunesse pour préserver les plus anciens? Je ne sais pas si j'aurais osé poser cette question il y a 8 mois, voyez-vous. Mais elle est à l'ordre du jour aujourd'hui d'une certaine manière. Et on est avec Léonore qui a 22 ans, qui habite Tours. Bonjour Léonore.
Bonjour Monsieur Pro, je suis très contente de vous parler.
Eh bien, moi aussi. Réponse à la question, oui ou non?
Oui.
Eh bien, vous allez nous expliquer tout cela dans une seconde. Christelle, le rappel des titres.
Oui, 2020, année décidément atypique avec ce chiffre de la sécurité routière qui vient de nous parvenir. 2550 morts sur les routes, c'est le chiffre le plus bas de l'histoire tout simplement. D'habitude, on est toujours plutôt autour de 3400 morts. Évidemment, il y a eu 2 confinements et peut-être un troisième à suivre. C'est bien le même homme qui a tué 3 personnes du côté de Valence et en Alsace. Une conseillère de Pôle emploi et 2 DRH. Ces 2 dernières personnes avaient été cessées supérieur hiérarchique. Le tueur présumé est toujours en garde à vue, mais il a été formellement reconnu et des traces ADN le confirment. L'Agence européenne du médicament devrait autoriser aujourd'hui le vaccin produit par AstraZeneca. La commission de vaccination allemande le déconseille toutefois pour les plus de 65 ans, faute d'avoir des données suffisantes. Il n'y a pas eu d'annulation, mais des reports de vaccination, confirme ce matin Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui promet que les retards vont se résorber. Les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter de 1,6% à partir de lundi. Ça représente 15 euros par an en moyenne.